Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, comme tous les jours, midi 14h aujourd'hui, parce qu'il y a le Tour de France, forcément une étape qui va passer par la Savoie et par l'Ain, ça sera intégral tour à partir de 14h, mais nous sommes là donc dès maintenant jusqu'à intégral tour. Autour de moi aujourd'hui il y a Paul Lassen, journaliste RMC, salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
En pleine forme Frédéric Hermel, journaliste RMC, salut Fred.
En pleine forme aussi,
bah oui.
Faire le Tour de France.
Parfait.
Bonjour Rémi, bonjour tout le monde.
Salut Fred. Élise Goldfarb, entrepreneur, militante féministe, salut Élise.
Salut.
Et puis il y a Robert Sebag également, affectionnologue à la Pitié-Salpêtrière, salut Robert.
Bonjour et bonjour à toutes et tous, et en pleine forme aussi.
Voilà. Bon, ça va alors. Allez, on va parler dans un instant du front anti-RN. Est-on en train de voler le vote des électeurs? Vous nous appelez au 32-16, à midi 30, Jordan Bardella à Matignon. C'est pas encore fait, loin de là. Mais dans cette hypothèse, serait-il à la hauteur? À 13h, pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration? Et puis à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Ce sera même plutôt vers 13h45. Et on joue, Paul, aujourd'hui.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux demi-finales de l'Euro 2024. Et on vous propose bien évidemment de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC présentes sur place, bien sûr. Vos deux places pour la demi-finale du 9 juillet à 21h. C'est simple, Rémi, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16, Euro au 7-32-16.
RMC, Estelle Midi.
La coalition du jour. Face aux résultats obtenus par le RN au premier tour des législatives, plus de 200 candidats se sont d'ores et déjà désistés pour tenter de faire barrage à ce RN. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, se dit même ouverte à l'idée d'une coalition avec certains au centre et à droite, Paul.
Oui, et ce matin, même son de cloche du côté de l'exécutif. Gabriel Attal le confirme, il faut tout faire pour que l'extrême droite ne dispose pas d'une majorité absolue. Alors, même si le Premier ministre le dit, il n'a rien à voir avec la France insoumise. Il défend le nouveau Front populaire et revendique clairement un front républicain anti-Rassemblement national. Voilà ce que dit Gabriel Attal. Aujourd'hui, LFI n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le RN, est en situation de l'avoir et de gouverner. Alors qu'il ne parlait que d'une Assemblée pluriel, dimanche soir, le futur ex-premier ministre est maintenant très clair, c'est tout sauf le RN. Ouverture à gauche, donc tu l'as dit avec Marine Tondelier, Rémi, ouverture de l'actuelle majorité présidentielle donc, et même à droite, des portes semblent s'ouvrir ce matin sur RMC. Xavier Bertrand ne fermait pas totalement la porte à un gouvernement de coalition. Et du côté de l'Élysée, on semble se préparer à ce scénario. D'après nos confrères de France Info, du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré, on réfléchit déjà à un gouvernement d'union tourné vers la gauche, avec deux têtes imaginées comme Premier ministre, les socialistes Valérie Rabault et Boris Vallaud.
Un front anti-RN, large, très large peut-être. Est-on en train de voler le vote des électeurs? Vous nous appelez au 32-16. Fred, on l'appellera comme on veut, cette hypothèse au pouvoir, c'est-à-dire à Matignon, d'un gouvernement de coalition nationale ou d'union nationale. En tout cas, l'ennemi clairement affiché, c'est le RN. Moi, je pense à ces 11 millions de Français qui sont prononcés au premier tour pour le RN, en tout cas qui ont voté RN. Est-ce qu'on est en train de voler le vote des électeurs?
On peut légitimement se poser la question. Je pense que dans la morale démocratique, je ne sais pas si ça existe, la morale démocratique, alors c'est peut-être un mot, enfin une expression que je viens d'inventer,
c'est
mais dans la morale démocratique, il y a questionnement quand même.
Il y a un pragmatisme politique.
Oui, mais quand je vois les alliances des carpes et des lapins mixomatosés, c'est parce que là, j'entends... Marine Tondelier, mais ils vont faire comment sur le nucléaire? Ils sont pas d'accord. Ils vont faire comment sur la abaya? Ils sont pas d'accord.
Non, mais il y a pas de sujet.
S'il te plaît.
Vas-y, Fred.
Non, je veux dire, là, on est sur quand même des points de vue qui sont radicalement opposés. Je veux dire, il y a quand même des gens qui avaient l'outrecuidance de dire que Emmanuel Macron, président légalement, légitimement élu, était un dictateur. Enfin, je veux dire, et ces gens-là, maintenant, travaillent ensemble contre 11 millions de Français. C'est pas simplement contre le Rassemblement National. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'immense succès du RN, il y a des citoyens qui ont librement décidé de voter pour ce parti qui est légal. Alors, on peut se poser la question de savoir si le RN doit être légal ou pas. S'ils considèrent que le RN n'est pas fréquentable, eh ben qu'ils l'interdisent. C'est tout. Si le RN est un danger pour la démocratie, qu'ils interdisent ce parti dangereux pour la démocratie. Mais ils l'ont pas fait parce qu'il n'y a pas raison de le faire. Donc, ça me paraît dingue d'avoir toujours le mot démocratie à la bouche et de ne pas accepter le résultat des urnes. De toute façon, je pense que dimanche, il peut y avoir une surprise, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens la plupart des gens ne vont pas suivre les recommandations.
Tu penses que ça peut avoir l'effet contraire ?
Ah oui. Ah oui, parce que
C'est-à-dire que, ces alliances contre nature, oui, comme tu le dis, certains électeurs, je sais pas, des électeurs LR, pourraient décider voter LR.
Mais bien sûr, un LR, Canal Historique, même Canal Historique, est quand même plus proche des idées sur l'immigration, par exemple, voilà, ou sur la sécurité, d'un électeur RN que d'un insoumis. Enfin voilà. Et moi, j'écoutais, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Baptiste Moreau, qui a été un proche de Macron, qui a été un député de la première législature de Macron, député de la Creuse, il était, et je l'entendais hier sur BFM TV, et il expliquait que c'était du n'importe quoi de faire ça, parce que lui, qui est un homme de terrain, c'est un agriculteur, etc., il dit, les gens, c'est en train de provoquer l'excès contraire, parce qu'on est en train de leur voler cette élection. Donc oui, ouais. c'est l'affichage presque un peu outrancier d'accord comme ça, où ils se jettent dans les bras de l'un de l'autre, ça risque de provoquer l'excès contraire.
Rémi, il y a quelques années, il y avait une publicité, c'était « La pile vendère ne s'use que si l'on s'en sert ».
Ouais.
Le Front Républicain, on s'en est servi à plusieurs reprises, et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Les gens essayaient, en 2017, même avant,
2002,
en 2002 avec Chirac et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, on s'en est resservi en 2017, en 2022, au bout d'un moment, les gens ont dit, attendez, il sert à quoi notre vote? C'est ça. Moi, il y a un problème de respect. Et la notion de respect me paraît extrêmement importante.
Certains vont même jusqu'à faire le parallèle avec la Constitution européenne et le référendum.
On n'a pas respecté.
Volé aux Français.
En 2005, il y a eu un référendum. On n'a pas respecté ma décision. Donc ça commence à faire beaucoup. Et comment vous voulez que les gens comprennent, avec les désistements? J'ai regardé deux cas, ou trois cas même. Avignon, il y a Monsieur Raphaël Arnaud qui se présente pour la France Insoumise. Il est mis en examen, il a insulté, il est accusé d'un certain nombre de choses.
François Fichet.
La maire d'Avignon décide de le soutenir au deuxième tour. Autre, l'inverse, si vous voulez. Est-ce que la LFI va vraiment voter pour Elisabeth Borne dans le Calvados? Alors qu'ils ont manifesté. Ils ont manifesté pendant des semaines et pendant des mois. Elle a fait 43.
Ils l'ont accusé notamment de déni de démocratie.
Ça, c'est ça. David Guiraud, on va soutenir. Certains soutiennent David Guiraud de la France Insoumise. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il peut y avoir un effet inverse. Parce que d'abord, les gens ne respectent plus. Je veux dire, ils ont leur opinion, quelle que soit. Alors voilà, on est d'accord ou pas d'accord, mais le respect des électeurs. Ils ont voté ça. On n'est pas d'accord, ben, eux, ils l'ont voté.
Front anti-RN, est-on en train de voler le vote des électeurs? Vous nous appelez au 32-16. Élise.
Bon, moi, vous vous doutez bien que je ne suis pas d'accord avec vous. Pour plusieurs raisons. Déjà, est-ce qu'on vole le vote aux Français? Non, vu que toutes les personnes qui votent ensemble, donc Renaissance et autres, et NFP, sont toutes aussi Français. Et on fait, si on les cumule, 40%. Donc
c'est
en réalité.
C'est pour ça qu'on n'a pas dit. La question, c'est pas est-ce qu'on vote le vote, on vole le vote des Français, mais des électeurs?
Bah, en vrai. Non, parce qu'il y a une coalition contre le RN.
Excuse-moi, Elisa, voilà. je te laisse parler. Évidemment, c'est pour débattre. Mais un électeur, je ne sais pas moi, un électeur qui a voté, il y en a encore quand même, qui a voté pro-Macron, là, au premier tour des législatives, qui a voté ensemble, et là, qui se retrouve, on lui dit, on va peut-être faire un gouvernement de coalition nationale avec des France Insoumise.
Alors, Rémi, je me permets
oui,
juste un,
petit
indiscret. Il y avait le dernier conseil des ministres de ce gouvernement qui avait lieu ce matin. Emmanuel Macron a lors de ce conseil, on ne gouvernera pas avec la France insoumise.
Voilà.
Désistement ne vaut pas coalition.
Oui, mais c'est ça que les gens doivent comprendre.
Ceux qui dirigent le Front populaire.
C'est ça que les gens doivent comprendre. Merci de me laisser parler parce que là, j'y teste de vous écouter.
Vas-y, Élie.
C'est que, en fait, il y a un cas où le RN peut gouverner le pays. Donc, on les a au pouvoir. Et un autre cas où, de toute façon, même si, attendez, toutes les semaines, je suis là pour critiquer David Guiraud et pour dire que c'est inadmissible les Raphaël Arnaud et tout ça.
Ce candidat LFI qui est fiché.
Dans ces cas, dans ce cas de coalition, LFI ne sera pas au pouvoir et le
nouveau. Vous n'en savez rien, mais ne vous pouvez pas dire ça.
Le nouveau populaire n'aura pas
la morale, la morale et le cynisme, ça suffit.
Hein, ça, mais c'est pas la morale et le cynisme, c'est juste le bon sens.
Comment vous voulez vous associer avec un Raphaël Arnaud?
Je ne peux pas non plus m'associer.
Et quand le gouvernement, je viens d'apprendre ce que vient de nous dire Paul aujourd'hui, il dit on ne gouvernera pas avec LFI, mais son Premier ministre, il dit on fera une coalition très large et peut-être même avec des LFI. Ça suffit.
Oui, mais comment est-ce qu'on peut laisser gouverner le Rassemblement national de la
Mais si les gens l'ont choisi, c'est pas ma tasse de thé, loin de là, mais les gens l'ont choisi. C'est triste. Si je ne suis pas content, je me barre.
11 millions de Français, c'est pas la France, excusez-moi, on est 70 millions.
Mais
on est
la démocratie, c'est une majorité.
Il y a exactement, on est en démocratie. Il y a tout autant 11 millions de Français qui sont victimes du RN. Donc, en fait, par exemple, si on dit 11 millions de Français, si on calcule à peu près combien il y a de musulmans, combien il y a de juifs en France, on peut vite
monter. Il y a une trentaine de millions d'électeurs. Il y a 38, je crois que c'est aujourd'hui. Millions, juifs, enfin, c'est 11 millions sur
le. Malheureusement, c'est pas tellement le Front National.
Robert, s'il te plaît. Robert.
Et ben, moi, je pense que c'est un mélange des deux.
C'est trop important.
C'est un mélange des deux.
Je suis d'accord, mais c'est important aussi ce que je te dis.
Je pense que LFI et le RN sont dangereux pour les juifs, notamment. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Et pour moi, LFI a un problème d'antisémitisme qui est catastrophique, cataclysmique. Et personnellement, en tant que juive, ça me fracasse, j'ai pas de mots, j'ai plus de mots en fait moi depuis le 7 octobre. En revanche, on ne peut pas dire que mettre en avant cette union républicaine, c'est voler le vote des Français. Parce que aujourd'hui, il y a une urgence qui est de ne pas faire revivre les pires années les pires heures de notre histoire aux Français.
Allez, on vous pose la question, Front anti-RN, est-on en train de voler le vote des électeurs? On le dit pas, on pose la question. Vous nous appelez au 3216 comme le fait Jérôme. Salut Jérôme.
Bonjour tout le
Merci
monde.
De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Isère, c'est ça Jérôme?
Oui, absolument, c'est ça.
Bon, vous y croyez à cette... vous réagissez comment à cette idée d'une coalition nationale?
Déjà, moi je trouve que cette histoire de triangulation, de se déliter, c'est...
Parlez bien devant votre téléphone, Jérôme, s'il vous plaît, on vous entend pas très bien.
Je trouve que c'est antidémocratique quand même de s'enlever alors qu'on est qualifié. Je trouve que, on me vole mon vote en fait, parce que moi, mon candidat a gagné et il s'enlève alors que du coup, il me laisse le choix entre deux extrêmes et les extrêmes, c'est quelque chose de très dangereux.
Vous aviez voté pour qui?
J'avais voté pour Ensemble.
Oh, la majorité présidentielle.
La majorité présidentielle.
Et il était qualifié.
Il était qualifié, alors je regardais quand même les points, même s'il serait resté et que les votes blancs et tout auraient voté pour lui, je pense pas qu'il aurait été qualifié non plus.
Et donc là, il se désiste.
Et il se désiste, voilà. Le RN n'est pas arrivé deuxième. Alors, c'est le Front Populaire, c'est pas un candidat LFI, c'est un candidat écologiste.
Ouais.
Mais il est arrivé premier. Mais voilà, quoi, je comprends pas cette histoire de se qualifier. Et de se retirer du c'est comme si l'équipe de France marque était qualifiée en demi et se disait non en fait on veut pas jouer le match quoi.
On a un peu l'impression d'avoir à faire une VAR de la politique. Le but est annulé. Mais ce que dit Jérôme,
ce que dit Jérôme est intéressant parce que est-ce qu'on a voté le vote des électeurs du Rassemblement National, mais quand j'écoute Jérôme, il a l'impression qu'on lui a volé son vote aussi.
C'est pour ça encore une fois.
Pour tous les partis.
C'est pour ça qu'encore une fois, pour vous donner un peu les coulisses de notre travail le matin, quand on a réfléchi à ce sujet, notamment avec Paul, on s'est dit ce matin, est-ce qu'on vole le vote des Français? Non, parce que c'est pas les Français. Est-ce qu'on vote le vote des électeurs RN? Sauf que il y a pas qu'eux qui peuvent. Oui. Qui peuvent ressentir, en tout cas, à tort ou à raison, ce sentiment d'être dépossédé. Il y a aussi des électeurs, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comme Jérôme, qui a voté pour la majorité présidentielle, qui se dit, maintenant, je vais me retrouver avec un candidat nouveau Front Populaire.
En gros, mon vote n'a servi à rien.
Oui, mais moi, si je me retrouvais dans une circonscription où mon candidat Ensemble, imaginons si j'avais voté pour Ensemble, était remplacé par un candidat NFP, mais pas de LFI, Bon, je me serais dit, bah, c'est une décision qui a été prise d'un commun accord entre plein de partis politiques. C'est le jeu de la démocratie.
Non, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est de laisser à toi. Attends, je termine la phrase. La démocratie, c'est de laisser à toi, électrice ou électeur, de voter ou pas, et pour qui?
Oui, mais on est en démocratie représentative, c'est les représentants qui décident comment ils s'organisent.
Ouais, mais d'où on en parlait déjà hier, mais d'où peut-être l'idée, on n'en est pas là. Le fait est qu'on n'en est pas là de proportionnel, de davantage de proportionnel.
Il faudra dimanche soir, Rémi, bien compter le vote blanc.
Ouais.
Je pense qu'il y aura beaucoup de votes blancs.
Oui.
Jérôme, merci d'avoir été avec nous. On était en Isère et on va rejoindre Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
On est dans les Bouches du Rhône cette soir.
Oui, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Ce front anti-RN d'une coalition nationale, d'union nationale, on l'appelle comme on veut, vous en pensez quoi?
J'ai l'impression qu'on nous fait le coup à chaque élection en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait monter le RN, on le fait monter, Chirac, Macron, se retrouver en face de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen. Ils ont fait monter le RN dans les sondages. Une fois quand il est monté dans les sondages et qu'il arrive en tête, on nous fait le coup, le Front Républicain, ils sont dangereux, etc. Moi, je ne vote pas pour eux. Moi, je ne vote ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche. Mais moi, dans ma circonscription, le candidat qui est arrivé troisième s'est retiré, un candidat d'extrême gauche, je n'aurais pas voté pour lui. Ça, c'est une certitude.
Okay.
Il me reste à voter pour le candidat de la majorité présidentielle ou pour le candidat du Rassemblement National, sachant que j'ai voté, le candidat pour qui j'ai voté, il ne s'est pas qualifié. On est d'accord?
C'est un candidat de quelle couleur?
Il était centre-droit.
D'accord.
Voilà. Donc, maintenant, il me reste le choix entre Ensemble et le Front National, ou le Rassemblement National maintenant. Eh bien, je vous le dis. Si le candidat d'extrême gauche ne s'était pas désisté, eh bien, je serais allé voter, j'aurais voté blanc. Et bien là, maintenant, vu qu'il s'est désisté, et ben je ne vais même pas aller voter. Ah. Parce que qu'est-ce que ça va faire? On me donne un choix. Il y avait un choix, ils étaient trois. Le troisième, il dit non, j'y vais pas. En Corrèze, M. Hollande, il est premier. Le troisième, il se désiste. Donc, en fait, on fait élire M. Hollande. Électeurs de la majorité présidentielle. Ouais. Ils l'ont tapé sur la tête pendant 5 ans, qu'ils l'ont forcé à ne pas se représenter. Et M. Hollande, il va être élu député. Et il va siéger avec qui? Avec M. Guiraud? Avec Mme Kéké? Il va siéger avec M. Poutou? Et qu'est-ce qu'il a de commun avec ces gens-là? Rien. La seule chose qu'ils ont de commun, c'est un siège à l'Assemblée nationale pour être tranquille et être bien payé. Pendant que les Français, ils en ont marre.
Il faut l'entendre dans la parole. Merci Stéphane.
Le vote pour le Rassemblement national, même si, franchement, je voterai jamais pour eux. Mais j'arrive à comprendre les Français qui votent pour eux.
Stéphane, je vous interromps parce qu'on est pris par le temps, mais c'est très important d'entendre la parole de Stéphane, parce que Stéphane qui nous appelait depuis les Bouches-du-Rhône, parce que ça aussi, il y a un grand nombre d'électeurs qui sont prononcés au premier tour qui se retrouvent dans la situation de Stéphane aujourd'hui, qui étaient perdus, qui sont perdus aujourd'hui et qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe à l'heure actuelle.
Moi, je pense que tout le monde est perdu.
Tout le monde non. Un certain nombre d'électeurs ne sont pas perdus. Mais Othman Nasrou est avec nous. Bonjour Othman Nasrou.
Bonjour.
Vous êtes vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Othman Nasrou, vous avez vu Marine Tondelier, la patronne des écologistes, ce matin, évoque l'idée d'une coalition nationale anti-RN. Et elle dit pourquoi pas travailler avec certains au centre ou à droite. Elle tend la main. Est-ce que vous saisissez cette main tendue?
Évidemment que non, évidemment que non. Tout cela devient totalement incompréhensible. On a des élus de la majorité présidentielle, le président de la République, qui ont passé leur temps à nous expliquer qu'il fallait faire barrage aux extrêmes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et maintenant, ils sont en train de tendre la main à l'extrême gauche. On n'y comprend plus rien. Et s'ils n'ont pas compris que c'est la meilleure manière d'installer le Rassemblement National comme seule alternative, que de vouloir tout mélanger, comme ils ont fait toutes ces dernières années, avec le en même temps, avec le et droite et gauche, eh bien, ils n'ont rien compris à la colère des Français qui attendent des réponses sur la sécurité, sur l'immigration, sur la maîtrise de la dépense publique, sur les services publics, sur tous ces sujets-là, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition à Emmanuel Macron et je lui en veux de la situation dans laquelle il nous met. Et quand j'entends maintenant qu'ils veulent gouverner avec une partie partie de la gauche, que la France insoumise, ce ne serait finalement pas si grave que ça, eh bien, je suis désolé, je crois qu'ils n'ont rien compris et que la majorité présidentielle qui est en train de disparaître l'aura bien cherchée. Et il va falloir tout reconstruire après tout ça, et notamment reconstruire une droite. Moi, je suis fier qu'à droite, avec les Républicains, on soit resté indépendant, voilà, dans notre immense majorité.
Mais Othmane Asrou, au risque, je me situe du côté de ce que Marine Tondelier, le Nouveau Front Populaire, Ensemble, pour les LR, Orsiotti, au risque de se retrouver avec une majorité même relative RN.
Mais ce qui va se passer, si on continue comme ça, c'est qu'on va effectivement mener le Rassemblement National au pouvoir à force de vouloir restreindre les choix, à force de vouloir mélanger les contraires. L'addition des contraires ne fait pas une politique. Et on vote maintenant en France uniquement par élimination. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à mettre le Rassemblement National aussi haut. On peut continuer, si vous voulez. C'est pas ça qui va faire que le Rassemblement National va reculer. C'est pas ça qui va faire que la France va se relever. Non, il faut faire l'inverse. Moi, je suis attaché à une droite indépendante. Et nous ne donnons pas de consigne de vote. Chacun votera en son âme et conscience. Les électeurs sont libres. Là où il y a des candidats et des républicains courageux qui sont au second tour, eh bien, ce sont les mieux placés pour effectivement à la fois barrer la route aux extrêmes et surtout reconstruire. Et puis, si, là où il n'y en a pas, les électeurs sont libres. Mais de grâce, arrêtons de tout mélanger, arrêtons la confusion. Mmh. C'est ça qui met le pays dans cette situation d'impasse politique qui a été voulue par le président de la République. Et de toute façon, vraisemblablement, cette assemblée va être ingouvernable. Donc il va falloir qu'on reconstruise des offres politiques cohérentes. Mmh. Et vous l'avez compris, nous à droite, eh bien, je pense qu'on aura eu raison de ne pas rentrer dans ces accords d'arrière-boutique qui ne marchent jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Othmane Asrou, restez avec nous. Robert Sebag-Vorej.
Vous savez quelle peut être l'interprétation de ce qui se passe avec Marine Tondelier et d'autres, Xavier Bertrand aussi, c'est qu'ils imaginent et ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de majorité totale pour le RN, mais par contre, il y aura une majorité relative. Et ce qu'ils veulent faire uniquement à très 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 court terme, c'est éviter l'élection d'un président d'Assemblée nationale qui soit du Rassemblement national. Et de dire là, il ne faut pas qu'il y ait un président... Il y aura une majorité relative peut-être pour le RN. Il faut pas qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale. Ça va avoir lieu le 12 juillet, le vote. Et là, on va tous être d'accord pour éviter qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale qui soit issu du Rassemblement national. Et je pense que c'est ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'il faut peut-être interpréter ces pseudo-ouvertures à très très court terme.
Oui, mais enfin, Fred. Pas de président de l'Assemblée nationale, mais bonjour pour se mettre d'accord pour que ce soit qui, Mélenchon, le président de l'Assemblée nationale, que ce soit un écologiste, un socialiste, un insoumis, un candidat de macroniste.
Enfin, je pense qu'ils trouveront quelqu'un qui puisse faire effectivement l'unanimité. Et peut-être pourquoi pas François Hollande, parce qu'il y pense sérieusement.
Othmane Asrou, si jamais, malgré tout, cette coalition d'union nationale se mettait en place, vous seriez donc dans l'opposition?
Moi, il n'y a pas d'union nationale possible avec la France insoumise. Et je pense qu'on est en train d'oublier totalement le danger que représente la France insoumise. Ouais. On n'en parle plus du tout. Je suis quand même stupéfait, et encore une fois, de la complaisance, y compris d'un certain nombre de macronistes avec l'extrême gauche qui dénonçait il y a encore quelques jours.
C'est sûr que le discours a sacrément changé en quelques jours. Ouais.
Mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Donc, je vous le dis, il n'y aura jamais d'union nationale avec ces gens-là, avec des gens dont on pense le contraire, avec les écologistes qui ont un agenda de décroissance, qui ont une rhétorique de lutte des classes. Enfin, sérieusement, on veut continuer. Si on veut que le Rassemblement National gagne, on continue comme ça. Moi, je veux un autre chemin pour mon pays. Ça ne passe pas par la compromission et ça ne passe certainement pas par la complaisance avec l'extrême gauche.
Merci, Othmane Asrou, d'avoir été avec nous, vice-président Les Républicains LR de la région Île-de-France.
C'est clair.
Frédéric.
C'est clair. Il faut préciser.
C'est la position, il faut le rappeler, ce que nous dit Othmane Asrou, c'est la position officielle, aujourd'hui, des Républicains.
Les Républicains, canal historique.
Canal historique, on va les appeler comme ça.
Pas de ceux qui ont suivi ce titre.
Non, je parle de
Othmane Asrou, fait partie de ceux qui sont restés fidèles à LR.
Bon. Merci donc Othmane Asrou d'avoir été avec nous. Quelques messages peut-être Paul, et puis on le résultat de notre consultation.
Oui, ce message de Titi qui nous dit: la France ne sait que pratiquer la politique du castor, faire barrage entre guillemets. Que font les politiques de tous bords entre les élections pour éviter la montée inexorable du RN? Le phénomène n'est pas récent. Et Tony nous dit: aucun vol, c'est juste pour sauver notre République que les partis se mettent d'accord.
Front anti-RN, est-on en train de voler le vote des électeurs?
Eh bien, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est un grand oui, puisqu'ils répondent donc oui pour 84% d'entre eux.
Bon, ça fasse peut-être réfléchir dans certains états-majors. Dans un instant,
et ce sont les électeurs. Hein.
Oui. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jordan Bardella, potentiel Premier ministre, serait-il à la hauteur? Vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
La suite d'Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT, le CV du jour. Le CV de Jordan Bardella, potentiel Premier ministre à l'issue du second tour des législatives de dimanche. Et certains émettent des doutes sur son parcours. C'est le cas notamment de Xavier Bertrand. Il était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe dans Apolline Matin.
Ce sont des menteurs, ce sont des pipoteurs, ce sont des charlots, Rassemblement National. Vous voyez l'état du pays. 7e puissance mondiale. Un pays où il y a une dette comme c'est pas possible, des failles comme c'est pas possible. Et pardonnez-moi. Et on va dire, un jeune homme de 28 ans qui a peut-être du talent parce qu'il est bien peigné, parce qu'il a un beau costume, parce qu'on l'a bien formaté, c'est lui qui va diriger notre pays sans expérience. Et un jeune à la tête de l'État, on a déjà essayé. Hein. On a payé pour voir, on a vu ce que ça donnait. Donc un peu d'expérience.
Vous faites référence au président,
Mais bien sûr. L'expérience, ça compte.
C'est ce qu'on appelle se faire rhabiller pour l'hiver. Ouais. Le talent de Jordan Bardella, d'après Xavier Bertrand, c'est notamment d'être bien peigné. Mais le canard enchaîné, Paul, s'interroge également sur le parcours de Jordan Bardella ce matin.
Oui, nos confrères sont allés fouiller dans les archives de l'université de la Sorbonne et ont retrouvé les bulletins de notes de Jordan Bardella. Et c'est le canard qui le dit en ces termes, il faisait partie des cancres. Après un bac économique et social et une mention très bien au lycée privé Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, Jordan Bardella tente le concours d'entrée à Sciences Po qu'il ne réussit pas. C'est alors qu'il décide de se tourner vers une double licence géographie et histoire et espagnol. Mais ses résultats ne sont pas très bons, 5 sur 20 en moyenne la première année. Il décide donc de se concentrer uniquement sur la géographie. Il valide cette première année au rattrapage grâce notamment à un étonnant 17,5 sur 20 en Aïkido. Hein, on ne le savait pas. Mais son niveau ne s'améliore pas par la suite. En deuxième année de fac, il obtient une majorité de 0 pointé. Et en fin de troisième année, au sixième semestre, il obtient une note globale de 1,8 sur 20. C'est à ce moment-là, en 2016, qu'il grimpe les échelons au sein du parti du Rassemblement National et finit par décrocher un poste à mi-temps auprès du trésorier.
Jordan Bardella à Matignon, serait-il à la hauteur? Vous nous appelez au 32-16, Fred, tu y crois?
Alors, moi, je ne peux le juger que sur... Je vais commencer par autre chose. Le mépris. Il y avait un Premier ministre de la France qui s'est malheureusement suicidé.
Pierre Bérégovoy.
Que j'aimais beaucoup. Pierre Bérégovoy. Qui a subi ce mépris.
Qui n'avait pas le bac.
Parce qu'il n'avait pas le bac, parce que c'était un ouvrier. Il a subi ce mépris. Et c'était un grand Premier ministre. C'était un grand politique. Un grand homme d'État pour la France. Donc, je me méfie toujours quand on méprise les gens sur leurs notes. Puis, attendez, on est allé à la fac. Quand t'as des notes comme ça, zéro, c'est parce que t'es pas allé aux examens, en fait. Que t'as 0-0-0, c'est parce que t'es pas allé aux examens. C'est tout, voilà, parce qu'il était déjà militant, il s'était investi dans le militantisme. Enfin, donc,
Sauf que c'est difficile de comparer le parcours de Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, quand il est devenu Premier ministre, il avait déjà un parcours politique.
Bien entendu.
Il a appris.
Du mépris par rapport à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Pierre, on n'a pas évolué depuis Pierre Bérégovoy.
Ouais. Okay.
Et donc j'aime pas trop ce mépris de classe là, à ce niveau-là. Après, Jordan Bardella, je ne peux pas le juger sur ce qu'il a fait comme Premier ministre, ce qu'il n'a jamais été comme Premier ministre. Je ne peux le juger que sur son métier actuel, qui est chef de parti. Il a conduit les deux dernières élections, une victoire immense pour son parti, c'est-à-dire victoire historique aux européennes, victoire historique au premier tour des législatives. Donc, je ne sais pas s'il sera un bon Premier ministre. C'est vrai que c'est un peu jeune, je reconnais. C'est vraiment très jeune. Donc, mais bon, après, un Premier ministre, c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer. Un dirigeant politique, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Il a autour de lui des conseillers de très haut niveau, parce qu'il y a un président très intelligent, très fort, qui a des conseillers qui lui ont peut-être conseiller de dissoudre l'Assemblée. On voit dans le bordel dans lequel on est. Donc voilà, jeune, oui, ça peut être un problème. Inexpérimenté, ça peut être un problème. Mais s'il est intelligent et qu'il sait s'entourer, pourquoi pas.
Élise?
Non, il n'est pas prêt. Enfin, déjà, il a 28 ans. Et moi, je suis la jeune de cette émission. Et je trouve que c'est trop jeune, 28 ans.
T'as quel âge, Élise?
30 ans. Au-delà de ça... Il est incapable de répondre sur une seule question concernant l'écologie. Il est incapable d'avoir la logique. C'est-à-dire, le mec à mon âge, ok? Il est pas capable, quand on lui demande sur l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans, donc ça veut dire que Mbappé ou qu'un trader, il paiera pas d'impôts. Il a même pas la logique de te dire, non, j'avoue, c'est un peu poussé. Il réfléchit même pas. Le mec, il est député européen depuis 5 ans. Là où tous les autres députés européens ont déposé des milliers d'amendements, ouais. Parce que c'est ça, tous les jours t'es au Parlement européen et tu te bats pour ton pays, tu te bats pour l'Europe. 3 amendements il a déposés en 5 ans, contre des milliers pour n'importe quel autre député. La honte, il fout rien. Ensuite, sur tout ce qui est social, il n'est pas là. Et autre question, un truc qui me sidère, le mec est pas capable de débattre avec une femme. C'est-à-dire qu'il a dit non pour débattre avec Tondelier. Il veut débattre avec Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas forcément pour une, contre une femme.
Mais est-ce qu'il a peur des femmes? J'ai jamais
mais
vu
non,
parler de
mais non,
femmes.
Parce que c'est la logique. C'est parce
vous l'avez déjà vu débattre avec une femme?
Il veut débattre avec Mélenchon parce que c'est faire peur. Il faut faire peur aux électeurs en
mais
disant
mais Mélenchon n'est même pas éligible. Il n'est même pas candidat.
Oui, mais non, mais tu comprends.
Est-ce que vous avez déjà vu Jordan Bardella débattre ou discuter avec une femme?
Tondelier n'est pas à son niveau, c'est ce qu'il pense.
Tondelier, je suis désolée de le dire, je suis pas particulièrement fan de son parti. Tondelier, depuis au moins une semaine, est excellente dans les médias. Mmh. Elle a montré qu'elle avait totalement les capacités de débattre.
5% européen.
Ouais, voilà.
D'accord, mais juste, c'est une femme. Donc, il ne veut pas débattre avec elle.
Oui. Mais son parti a fait ça.
Mais il aurait accepté de débattre avec Éric Zemmour qui a fait 0,5%.
Robert,
donc, en fait, c'est pas ça la question.
Alors, Robert, le sage, et voilà. Je ne dis pas le plus âgé,
quand se pose la question, ça me paraît tout à fait légitime. Mmh. Et moi, en voyant un petit peu le thème de ce débat, j'ai fait un parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, le débat, c'est l'âge, mais l'âge, on se pose la question, est-ce que M. Biden, au-delà de 80 ans, et M. Trump à 78 ans, est-ce qu'ils sont capables? Et le débat, il est là. Est-ce qu'on a les capacités à cet âge-là, cognitives, de mémoire, etc., de pouvoir conduire un pays? Et nous, chez nous, c'est l'inverse. On a un premier ministre qui a 34 ans. Et
ils sont en couche-culotte.
Voilà, actuel. Et on a un prétendant à Matignon qui a 28 ans.
Bon, il serait à la hauteur ou pas?
Voilà. La question, moi, je suis comme Fred. Je pense qu'aller chercher ses notes, les autodidactes, ça existe. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu un sens de la réalité de ce qu'est la vie à 28 ans. Toute sa carrière, elle a été politique, dans des partis politiques. Il a jamais vraiment travaillé en industrie, dans une usine, peu importe.
Comme la plupart des politiques, mon ami.
Non, mais d'accord, mais ils ont un tout petit peu de bouteille. Ils ont été élus, ils ont fait des campagnes. Les seules campagnes qu'il a faites, c'est à la proportionnelle, c'est au niveau européen. Et c'est vrai qu'il n'a pas été très très productif en termes d'amendements au Parlement européen. Donc on verra, mais si les Français le savent, il faut leur donner. S'ils décident de les lire, puis on verra bien.
Élise, une info, enfin quand même, Jordan Bardella refuse pas de débattre avec les femmes. Il avait débattu avec Valérie Ayer dans le cadre des européennes le 3 mai dernier. Donc
juste pour aller dans le sens de ce que dit Élise, il y a eu 4 débats.
Voilà.
Depuis le début de la campagne des législatives, dans ces 4 débats entre
des hommes.
Il y a eu que des hommes. Aucune femme n'a débattu depuis le début des élections.
Est-ce que c'est Jordan Bardella qui a exigé qu'il n'y ait pas de femmes?
Là, en l'occurrence, il a dit non. Et il va y avoir un débat sur BFM TV. Il va y avoir.
Parce que c'est Marine Tondelier, les écologistes.
Oui, mais là, regarde. Excuse-moi, Rémi. Il ne va pas débattre avec Marine Tondelier sur BFM.
On va au 32.
Elle sera là, mais ils vont passer chacun leur tour. Donc c'est honteux, en fait.
Rodolphe est avec nous. Bonjour, Rodolphe.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. On est dans le Morbihan, Rodolphe.
C'est ça, tout à fait.
Bon, si Jordan Bardella accédait à Matignon, est-ce qu'il serait à la hauteur selon vous?
Bien sûr, pourquoi pas. Alors, pour répondre à la question et puis surtout à votre chronique, c'est Élise, ça?
Oui, Élise, oui, tout à fait.
Vous pensez que pendant 7 ans, on a été gouverné par des pros et par des compétents? Vous pensez que à l'intérieur, M. Darmanin est compétent quand on voit les chiffres catastrophiques? Vous pensez qu'à l'éducation nationale, les professeurs sont contents? Non mais attendez, je vous parle de compétences, en termes de compétences, Premier ministre ou pas Premier ministre, si on est compétent, on l'est.
Aujourd'hui, Olivier Véran était médecin, ministre de la Santé, Dupond-Moretti, avocat, garde des Sceaux, comment?
Vous pensez que le Covid, il a été bien géré par Madame Buzyn?
Excuse-moi, oui.
Ah bon? Visiblement.
La France a été un des pays.
C'est pas ce que les hôpitaux pensent, en tout cas, vous voyez. Les hôpitaux, ça fait longtemps qu'ils sont à la rue et personne.
Je pense qu'en Algérie, ils n'auraient pas dit ça à la France.
Non mais madame, moi je vous mets juste face à vos contradictions. C'est juste, voilà. Laissons, la question elle se pose tout le temps quand c'est le RN. Mais est-ce qu'elle s'est posée quand Monsieur Attal est arrivé Premier ministre?
Certains ont dit qu'il était très jeune, qu'il manquait d'expérience.
Élise,
s'il te plaît.
Mais dans le même temps, on a entendu. On a entendu l'autre discours qui disait mais il est jeune, mais c'est bien un jeune à Matignon, ça change. Vous voyez, on a entendu deux discours. Moi qui étais le premier d'ailleurs, alors je vote pas pour le parti présidentiel, mais j'ai quand même dit, tiens, pourquoi pas un jeune, à la limite, c'est pas plus mal d'avoir toujours les barons, des barons politiques qui ont la bouteille, effectivement, finalement font pas grand chose. Bon, je dis pas pourquoi pas, après Elisabeth Borne, pourquoi pas? Finalement, est-ce qu'on lui a laissé le temps? On lui a pas laissé le temps. Laissons les choses. Il y a une démocratie en France. Aujourd'hui, la question, elle se pose surtout parce que c'est le RN. Si c'était pas le RN, elle se poserait pas comme ça la question, vous voyez? C'est ça qui est un peu dérangeant. Moi, j'ai pas toujours, pour tout vous dire, j'ai pas toujours voté RN, j'ai voté LR, j'ai voté un peu. La question, elle se pose surtout parce que c'est Jordan Bardella et parce que ça dérange. Et il a pas refusé de débattre avec Madame Tondelier. C'est aussi la France Insoumise qui pousse à ce que ce soit Mélenchon, impérativement Mélenchon, et Gabriel Attal aussi.
On y est revenu, hein, la France Insoumise de pousser Mélenchon. Je crois qu'il y en a beaucoup qu'à la France Insoumise qui lui demande justement, au contraire, enfin, qu'il pousse vers la sortie, plutôt. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous. Rodolphe qui nous appelait depuis le Morbihan. On vous a posé la question. Jordan Bardella à Matignon, est-ce qu'il serait à la hauteur?
Nos auditeurs y croient. Ils répondent oui pour 72% d'entre eux.
Bon, c'est assez clair. À présent, tiens, une plongée dans la France de l'entre-deux-tours de ces législatives. C'est vous qui avait la parole et on va prendre la direction du département de l'Aisne.
RMC, les Français en direct.
Et dans l'Aisne, on retrouve Johanna Chabas. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Reporter bonjour. RMC. Quel temps tiens il fait là en ce moment dans l'Aisne?
Ah bah alors il a plu un peu de la matinée, puis après il a refait beau, vraiment on sait plus là.
Bon, variable, on va dire, un peu comme la situation politique actuelle. Johanna, vous êtes avec qui?
Moi, je suis avec Jérémy, qui est super sympa, qui est un commerçant du centre-ville de Laon. Il a 50 ans, 3 enfants. On est dans sa boutique. On trouve un peu de tout, tout ce qui est lié au Moyen-Âge, parce que c'est sa passion. Donc,
ah, puis c'est une ville médiévale, Laon.
Tout à fait, ah, avec oui. Des pavés, une très belle cathédrale. Et donc, ici, on va trouver de l'alimentaire avec des produits du coin, donc du saucisson, du vin, mais aussi de l'ébénisterie, parce que c'est sa passion à la base. Et donc, ce que m'expliquait Jérémy, c'est qu'il a dû se diversifier, parce que parfois, la vie en tant que commerçant, elle est un peu compliquée. C'est une galère de pouvoir se verser un salaire à cause de toutes les charges qui sont à payer.
Bah justement. Johanna,
ouais.
Justement. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Tiens Jérémy, ce que disait Johanna, c'est intéressant. Bon, on comprend que les affaires, c'est pas toujours simple en ce moment. Il y a plein de raisons, hein. L'inflation notamment, les coûts d'énergie et tout. Mais ces législatives, est-ce qu'elles vous donnent de l'espoir?
Absolument pas. Non, il n'y a aucun espoir. Ah bon, après, on a de nouveaux candidats qui se présentent, comme le RN. Bon, on sait leur parcours, on sait d'où ils viennent. Mais on sait aussi où vient le parcours du LFI. On sait où vient le parcours des communistes. On sait aussi le bilan de tous les vieux dinosaures qui ont gagné depuis 40 ans, qui ont fait une diète abyssale et qui ont détruit le pays. Donc à voir où est-ce qu'on va, on ne sait pas en fait.
Là, vous êtes perdu en ce moment.
Mais je pense que beaucoup de gens sont perdus. Et c'est pour ça que le RN aujourd'hui passe. Et c'est surtout pour ça que les gens votent, parce que c'est le seul qui n'a pas été testé. C'est le seul qui, pour l'instant, ne se fait pas des alliances avec des NPA, avec des LFI, avec des gens qui sont des extrémistes, dans leurs actions en tout cas, pour les fichiers S, etc., les gens qui lancent des cocktails Molotov sur la police et autres. Donc tous ces gens-là, pour l'instant, à part eux, on voit pas grand monde.
Vous qui discutez avec des habitants de Laon, parce que ouais, bon, je suis du Nord, je connais Laon, hein, c'est une très jolie ville d'ailleurs. Mais on va pas se cacher que, notamment dans le département de l'Aisne, il y a de grosses difficultés sociales, beaucoup de chômage, beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Jérémy, lorsque vous discutez avec des habitants de Laon, des amis, des collègues, est-ce que on a ce discours de toute façon? Enfin, je l'ai cru l'entendre. Hein, de toute façon, on a tout essayé, ils sont tous nuls, pour résumer. Et bah, si on n'a pas essayé, alors tant qu'à faire, on y va.
Non, pas forcément. On n'est pas dans ce sens-là. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai pas voté RN. J'ai voté pour un gogol du coin, pardon, excusez-moi du terme, que je trouve stupide. Mais pour le coup,
un original, on va dire plutôt.
Un original. Je sais qu'il fera aucune voix. Ça m'a amusé. Je préfère mettre un bulletin dans son urne plutôt que mettre un bulletin blanc qui va être donné au RN. Donc voilà. Donc j'ai mis j'ai voté pour n'importe qui plutôt que. Voilà, et je pense que vaut mieux faire ça que voter pour des gens qui ont déjà fait leur test et qui sont plantés totalement sur les 7 dernières années, voire les 40 dernières années.
Merci Jérémy. Une dernière question à Johanna. Johanna, toi qui es depuis quelques heures maintenant à Laon, dans l'Aisne, c'est quoi le sentiment général des habitants, même si c'est difficile de savoir, mais l'ambiance?
Bah, c'est l'ambiance et surtout, on peut voir une ville où il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, des boutiques qui sont à vendre, ou alors la devanture est complètement bouchée. Enfin, ouais. Il y a cette ambiance un petit peu de morosité, on peut dire. Je crois que c'est le mot qu'avait employé Jérémy hier.
Et guerre d'espoir dans le cadre de ces législatives, on a compris.
Bah, c'est ça, c'est un peu un geste de contestation avant tout, et puis de toute façon, ne plus trop de confiance avec la politique. Quoi.
Merci beaucoup, Johanna Chabas, reporter RMC. Merci à Jérémy. On était dans l'Aisne à Laon. Et on continue. Bonne journée. Et on continuera notre tour tout à l'heure vers 13h30. On sera en Loire-Atlantique. Ce sont les Français en direct. Dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Avis aux jeunes parents. comprendre et interpréter les pleurs des bébés. Bah, c'est désormais possible. Ah ouais. C'est tout de suite sur RMC et RMC Story. À tout de suite, ça t'intéresse, Fred.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Anthony Morel nous a rejoint. C'est Estelle Midi, comme tous les jours, midi 14h sur RMC, RMC Story.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Tu es en train de me montrer des choses. Il y a des choses qui ont changé dans ton texte.
Mais non, il y a rien
qui change. Calme-toi. Calme-toi, Anthony.
Tout va bien.
Tout va bien. Salut, Anthony.
Salut.
On va parler des pleurs de bébé, c'est bien ça?
Mais oui, c'est
bon,
ça.
Jusque-là, c'est bon.
Jusque-là, t'as tout bon.
J'ai les bonnes fiches. Tu vas tenter en tout cas de faciliter la vie des jeunes parents, bon, toi, ou en tout cas la technologie.
Ouais,
tu as plutôt quelques, la technologie. Innovations à nous présenter.
Absolument, et notamment, un truc assez fou, c'est un traducteur de pleurs de bébé. Voilà.
Et, fallait y penser quand même.
Fallait y penser. Alors, ouais. C'est une start-up que j'ai rencontrée il y a quelques mois, qui est assez incroyable. Ils ont mis au point une application, alors qui se base sur l'intelligence artificielle, ça s'appelle Acapella. Et en gros, alors, quand ils m'ont dit ça, moi, franchement, j'étais un peu incrédule, un peu sceptique. Ouais. Maintenant, je suis un petit peu plus convaincu parce qu'il y a eu pas mal d'études, en fait, sur l'analyse des pleurs de bébés. Et visiblement, le spectre sonore varie en fonction des besoins du nourrisson.
Ah, alors là, c'est quoi ça?
Ouais, j'en sais rien.
Là, c'est caca-culotte.
Ouais, alors c'est ça. Alors, il y a peut-être caca-culotte. Il peut y avoir faim, il peut avoir mal au ventre. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Et donc, en fait, l'application, on lui a appris, elle a analysé des milliers et des milliers de pleurs de bébés différents. Elle est capable d'interpréter ces variations-là. Et donc, tu vas chasamer, en fait, avec le téléphone, les pleurs du bébé, et ça va te donner leur signification avec un taux de précision. Alors, c'est les chiffres qui sont donnés par cette start-up de 95%, donc c'est assez énorme. Par rapport à des parents, c'est 30%. Les parents, en général, ils sont un petit peu désemparés, ils tentent, voilà, ils essayent de faire des déductions, mais ils savent pas forcément, c'est un peu compliqué. Donc là, l'application peut les aider. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, alors là, je sais pas ce que ça veut dire non plus.
J'adore la chronique d'Anthony Morel, moi j'ai compris ça.
Ah après, oui, c'est ça, ouais, probablement. Ouais. L'application est seulement disponible aux États-Unis pour l'instant. Bon. Elle va arriver en France, on espère. Dommage. Mais elle pourrait aussi servir à détecter d'autres choses dans les sons et dans la respiration des nouveau-nés.
Ah, ça, c'est bien.
Donc, par exemple, des problèmes respiratoires ou un certain nombre de maladies. Donc, c'est au-delà du côté gadget anecdotique, tu vois.
Déjà que les parents sont généralement inquiets, là, tu vas les paniquer complètement.
Bah, c'est un peu ça. Non, mais c'est aussi le truc, quoi. C'est que t'as tout un business qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle la baby tech. Il y a énormément, énormément de choses. Et j'aurai le temps de vous en reparler. Il y a plein de technologies, plein de nouveautés. Notamment des poussettes autonomes qui se conduisent comme les voitures autonomes. Ça, je vous en parlerai une autre fois.
Des poussettes autonomes?
Mais oui, bien sûr.
Tu mets le bébé dans la poussette et
c'est bon, normalement, tu te balades de côté quand même.
On va parler technologie. Technologie encore, nous, mais attention, on ne prend pas ton boulot, mais on va parler voiture électrique.
Ouais.
Bon, on a des premiers retours d'expérience, on va dire, qui est assez mitigé.
C'est vrai?
Bah, notamment sur les pannes.
Ouais.
Notamment l'autonomie. Bon, soit sur le coût, on le savait.
L'autonomie, toujours.
Et sur la pollution aussi, c'est peut-être pas aussi propre. Pour
regarder le cycle de vie total du produit.
On va en parler. Ouais. La voiture électrique est-elle une aberration? Bah, tu sais, on fait dans la dentelle, hein, si tu le sais. Vous nous appelez au 32-16 et dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
Merci. RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi, 14h aujourd'hui, avant l'étape du Tour de France, à vivre en direct dans l'intégral Tour, sur RMC, RMC Story. Donc, nous sommes ensemble avec Paul Lassen, journaliste RMC, Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, Élise Goldfarb, entrepreneur, militante féministe, et Frédéric Hermel, journaliste RMC. Dans un instant, on va parler voiture électrique. Pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration? Vous nous appelez au 32-16 à 13h45, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Et puis Paul, on continue de jouer sur RMC.
Oui, puisque cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux demi-finales de l'Euro 2024. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec le vol et l'hôtel, bien sûr la rencontre avec les équipes de RMC avant le match, et bien sûr vos deux places pour la demi-finale du 9 juillet à 21h à Munich. Alors, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16, Euro au 7-32-16.
RMC, Estelle Midi.
Voiture électrique qui passe. Mais y aurait-il un doute? En tout cas, alors que la mort de la voiture thermique est déjà programmée, la voiture électrique est-elle vraiment la solution du futur? Paul, les premiers retours d'expérience, comment dire, pose question.
Oui, Rémi, d'après une étude publiée par l'association Sécurité et Réparation Automobile,
Au début du mois de juin, la voiture électrique, déjà, elle est moins économe que sa cousine thermique en termes de réparation. D'après cette étude, qui s'appuie quand même sur 800 000 rapports d'expertise des assurances après des sinistres qui sont survenus l'an dernier, faire réparer son véhicule électrique coûte 15% de plus en moyenne que pour un véhicule thermique. Exemple marquant, la Dacia Spring, véhicule 100% électrique. C'est aujourd'hui la voiture la plus chère à réparer des 10 véhicules parmi les mini citadines. Enfin, niveau assurance, si les tarifs restent raisonnables aujourd'hui, d'après les professionnels du secteur, il faut s'attendre à une augmentation du prix des assurances en France de l'ordre de 10 à 20%.
Sur les électriques. Hein.
Sur les électriques dans les prochaines années.
Bah, forcément, si ça coûte plus cher à réparer.
Bah... Exactement. Autre facteur, tu en parlais, l'écologie. Si les véhicules électriques sont mises en avant pour leurs bienfaits sur l'environnement. D'après la revue très sérieuse Nature aux États-Unis, elles provoquent aussi de la pollution. Dans toutes les grandes villes où la voiture électrique est omniprésente, on a évidemment constaté une baisse des niveaux de polluants dits classiques, mais on observe à l'inverse une nette montée de la concentration de méthane dans l'air. Or, le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre dont le pouvoir de réchauffement est 28 fois supérieur à celui du CO2.
Ah bah. Pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration? Vous nous appelez au 3216. Fred,
Frédéric Arnel. C'est une arnaque. Ça, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était une aberration écologique, économique et sociale. Et sociale, notamment dans notre pays, puisque nous sommes un pays où on fabrique encore des voitures. Nous avons des
géants. On va fabriquer des voitures électriques.
Oui, mais nous avons des géants. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché à l'électrique et surtout chinois, puisqu'ils ont, ils ont démarré largement avant nous. On a bien vu au dernier salon de l'auto à Paris que les grandes stars des voitures électriques étaient chinoises. Ils ont beaucoup d'avance. Et donc, on est en train d'offrir un marché à la concurrence, à la Chine, avec ce qu'on sait de respect des droits humains, de respect, enfin, d'absence de respect des droits humains, d'absence de respect de l'environnement, etc. Donc voilà, on sait très bien. En plus, je dis que c'est une catastrophe sociale parce que ça va faire perdre des emplois chez nous. Je vous rappelle quand même que la France, c'est Renault, c'est Stellantis, ex-Renault, ex-Peugeot, Citroën, etc. Donc nous sommes historiquement de grands fabricants de voitures. Donc socialement, c'est un problème pour nous. En plus, l'ouvrier... Vous savez, l'invention du capitalisme, c'est John Ford qui a fabriqué la Ford T en disant « Je veux que mes ouvriers puissent acheter la voiture qu'ils produisent ». Ben aujourd'hui, un ouvrier qui produit une voiture électrique n'a plus les moyens de s'acheter une voiture électrique parce que ça coûte beaucoup trop cher, on l'a expliqué, à l'achat, à l'entretien, ouais, à la réparation, etc. Et surtout, on avait expliqué l'autre jour qu'au niveau de l'Argus, la décote était très rapide. Ouais. C'est-à-dire que ça perdait de la valeur très très vite, encore plus vite qu'une, beaucoup plus vite qu'une voiture thermique. Donc voilà, on s'est fait totalement entuber, désolé de parler comme ça, pour des raisons purement idéologiques. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un très haut dirigeant d'une très grosse entreprise française. Voilà, c'était Duhoff qui officiellement on pouvait pas le dire, et c'est une maison qui fabrique des voitures électriques, en disant que c'était une aberration et que eux-mêmes le savaient, que aujourd'hui par exemple une voiture thermique diesel nouvelle génération émet très très peu de gaz à effet de serre. Non mais par rapport à ce qu'il y avait, etc. Mais quand on voit les chiffres aujourd'hui par rapport au méthane, c'est-à-dire que ça ne justifie pas tout ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là.
Élise, je sens que tu t'énerves, mais tu restes au point mort pour l'instant. Je donne la parole.
Je reste au point mort, j'attends. Voilà.
Et Robert, et après tu vas pouvoir démarrer en trombe.
Alors je vais pas appuyer sur l'accélérateur. Moi, je. C'est vrai que au départ, quand on a commencé il y a plusieurs années à parler de voitures électriques, j'étais séduit. J'ai dit effectivement, voilà. Et puis, en creusant un petit peu, alors avec les chiffres que nous a donné Paul, pour moi, il n'y a pas photo. Je pense que c'est réellement une aberration parce qu'on n'étudie pas le cycle de vie d'une voiture. Et quand on regarde le cycle de vie d'une voiture, en particulier sur la fabrication des batteries, alors peut-être qu'un jour ça évoluera, on s'aperçoit que effectivement, c'est les terres rares. On exploite des gens dans des pays extrêmement difficiles. Hein, le nickel, le cobalt, la République démocratique du Congo, la Bolivie, les salars, etc. où on trouve effectivement toutes ces terres rares. Après, il y a effectivement le coût et surtout après la destruction de la voiture. Parce que la voiture, il faut aussi, une fois qu'elle est terminée,
Il faut recycler.
C'est le cycle de vie. On en fait quoi de tous ces métaux rares, de toutes ces batteries, tout ça. Et en plus, bien sûr, il a dit le coût social aujourd'hui. Et on s'aperçoit effectivement quand on voit, si vous voulez, la pression des Chinois aujourd'hui. Voilà. Et alors là, je découvre, le méthane, je découvre. Merci Paul, parce que je découvre, je ne savais pas que... Et le méthane, effectivement, est un gaz à effet de serre. Mais pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut garder, si vous voulez, un minimum. Je suis plus pour la voiture hybride non rechargeable, parce que c'est des petites batteries, que pour la voiture toute électrique.
Pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration? Vous nous appelez au 3216. Élise.
Alors, déjà, je vais commencer par répondre sur l'argument de on va se faire dominer par la Chine. Excusez-moi, oui. Mais avec les voitures qui sont aujourd'hui thermiques, donc faites avec du pétrole, on est complètement dépendant de l'Arabie Saoudite, oui, et de la Russie. Donc, je préfère.
Non, mais pas pour la fabrication.
Pas pour la fabrication, mais pour l'emploi.
Pour l'énergie.
Ensuite.
On parle de la fabrication.
Oui, bah, si, pour je te parle de la fabrication, mais enfin, la réalité, c'est.
Non, mais moi, je parle du coût social pour la pétrole. Fabrication.
Oui, bah, donc, c'est la même chose.
Vas-y, Élie.
Ensuite, évidemment, pour les voitures électriques, la fabrication, elle consomme beaucoup. En revanche, les voitures électriques sont fabriquées avec du renouvelable et avec de l'électricité. D'accord? Ce qui nous permet, à long terme, de nous indépendantiser des énergies fossiles. En fait, c'est une question d'énergie fossile, la question de la voiture électrique. C'est OK, sur la fabrication, ça consomme, mais sur le long terme, ça nous permet de nous sortir du pétrole. Mmh. Et nous sortir du pétrole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous indépendantiser de la Russie, nous indépendantiser de l'Arabie Saoudite, nous indépendantiser de plein de problèmes, en fait, et surtout au niveau écologique, donc de miser en France sur le nucléaire.
Sauf que sur la production de batterie, aujourd'hui,
avec le nucléaire et le renouvelable.
Une dépendance, oui, mais on quitte une dépendance. Non, mais pour la construction des batteries, pour la fabrication des batteries, à l'heure actuelle, on quitte une dépendance, tu as raison. Et Fred, je suis pas d'accord avec toi. Elle a raison. Le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier. Non, mais désolé, on s'est pris en pleine face.
Là, c'est pour
Fred.
Là, c'est
pour Fred. Est-ce que tu veux qu'on parle de 73 et 79?
Et il y a eu des conséquences. C'est pas du pétrole. Excusez-moi, je termine. Et il y a eu des conséquences sociales.
Ah, mais bien entendu.
79.
Mais le problème, c'est que si on comme tu dis, on s'indépendantise de ces pays producteurs d'énergie fossile, de pétrole, c'est pour tomber dans une autre dépendance à l'égard d'autres pays pour la production des batteries.
Regardez, la France est en train de développer le nucléaire de façon
mais ça c'est pour l'électricité, mais la batterie.
Mais quand tu développes le nucléaire pour construire une batterie,
non, c'est la fourniture d'électricité, c'est pas la batterie.
D'accord,
il y a des métaux rares, la batterie.
OK, d'accord. Hello les gars, alors on interdit l'iPhone.
En tout cas, on vous pose la question.
Il y a beaucoup plus de gens qui ont des iPhones que de gens qui ont des voitures électriques.
Robert, s'il te plaît, pardon. On va sur le terrain. On va au 32-16.
D'accord.
Sur le terrain, retrouvez ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et on va retrouver Kevin. Et je dis sur le terrain parce que Kevin, il est propriétaire d'un véhicule électrique. Donc on va voir comment ça se passe. Bonjour Kevin.
Et bonjour.
Merci de nous rejoindre. On est en Haute-Garonne.
C'est ça, tout à fait.
Dans quel coin?
Du côté de Beauzelle.
Très bien. Kevin, vous faites quoi dans la vie?
Je suis expert logiciel.
D'accord. Et vous avez une électrique?
Oui, depuis 3 ans maintenant.
Une petite, une grosse?
Une moyenne.
Bon, d'accord.
C'est une moyenne qu'on voit beaucoup.
Bon, d'accord. Très bien. Ça commence par un T, ça finit par un A, c'est ça?
Peut-être.
Bon, elle vous a coûté combien?
Allez.
Pardon, elle m'a coûté 36 000 euros.
Ah, d'accord.
Bon. Aide déduite?
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc c'est un joli coup. Bon Kevin, comment ça se passe?
Ben ça se passe parfaitement bien. J'ai 70 000 km aujourd'hui au bout de 3 ans avec ma voiture. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je ne reviendrai jamais au monde avec mon vieux moteur thermique de 1860.
Parlez bien devant le téléphone en revanche.
Pardon,
Kevin.
Pardon.
Ouais.
Je ne reviendrai jamais en arrière avec ce vieux moteur thermique de 1860. Voiture électrique, voilà. Au niveau du coût, par exemple, je suis passé de pratiquement 2500 euros de carburant par an à 500-600 euros par an.
Donc ça, il y a une vraie différence, c'est sûr.
Recharge. Là, ma voiture, ben, je vais avoir 3 ans, donc je vais avoir ma première visite d'entretien à faire. Donc je vais changer de filtre d'habitacle qui coûte 40 euros. C'est le seul entretien qu'il y a à faire.
D'accord.
Et puis voilà, et puis l'agrément de conduite, le fait de ne pas avoir de vibrations, pas de bruit, le fait de ne pas...
Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas lorsque vous voyez ces études qui sortent et qui nous disent quand même que... Alors, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais si vous aviez un problème mécanique sur votre voiture, si vous aviez un accident, et encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais même matériel, lorsqu'on dit que c'est pas si propre que ça, ça ne vous interroge pas?
Ben, ce qui m'interroge moi un petit peu, c'est que moi je suis quand même très branché sur le sujet, je lis beaucoup d'enquêtes et compagnie, et tous les jours je vois des études qui vont dans l'autre sens. Une étude très récente par exemple américaine sur des dizaines de milliers de Tesla qui avaient dépassé les 330 000 kilomètres, en moyenne les batteries qui étaient bien évidemment d'origine avaient perdu 15% d'autonomie.
Ouais.
Donc moi des enquêtes comme ça j'en vois tous les jours, j'ai vu une enquête qui m'a fait mal à la tête, parce que c'était trop compliqué pour moi. Qui montrait que, grosso modo, en France, une voiture électrique, parce qu'elle arrive à 40 000 km, elle a autant pollué qu'une voiture thermique. En Pologne, c'était 90 000 km, parce que l'électricité était fortement carbonée là-bas. Je voudrais aussi juste rajouter que n'oublions pas qu'on est aujourd'hui au tout début de la voiture électrique et des batteries.
Pour la technologie,
pour 2026, il y a déjà des marques qui sont en train de finaliser les batteries sans métaux rares. On a aujourd'hui des usines de production de batteries qui sont en train de se construire en France.
Ouais.
Je vais citer la marque Renault parce qu'ils sont aujourd'hui les premiers sur un nouveau Scénic à avoir mis tout un système qui fait que si des cellules de batteries sont défectueuses, on change juste les cellules et pas toutes les batteries.
Mmh. Donc, voilà, mais restez avec nous si vous voulez bien, oui. Kevin. Restez avec nous. Il y a Mehdi Ghezard qui nous rejoint. Vous le connaissez, j'imagine, les grandes gueules. Salut Mehdi.
Salut, comment ça va?
Très bien. Et toi, Mehdi?
Magnifique.
Bon, Mehdi Ghezard, président du groupe GZR Auto, grande gueule, évidemment, d'RMC. Mehdi, bon, bah voilà, Kevin, il est content, hein?
Bah, tant mieux, il est content parce que Kevin a les moyens de se payer une Tesla, mais c'est pas le commun des mortels qui a les moyens de se payer une Tesla, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que Tesla est l'unique vendeur de voitures électriques, et malheureusement, les petits budgets n'ont pas cette garantie-là et n'ont pas les mêmes problèmes que les Tesla ont. Les Tesla ont une sorte d'histoire maintenant parce que c'était les pionniers dans le véhicule électrique et que maintenant ils ont une sorte de...
d'expertise.
De grande notoriété, d'expertise. Mmh. Mais moi, je vous demande de me voir les problèmes qui sont sur les Dacia Sandero, les Dacia Sipoe, les petites voitures électriques à petit budget, où là, il y a de très, très gros problèmes. Il y a d'énormes problèmes. Le véhicule électrique est plus cher déjà à l'acquisition qu'un véhicule thermique. Donc déjà, tu payes plus cher son acquisition, donc tu perds de l'argent par rapport à ça. Mmh. Et le slogan et le refrain à chaque fois que l'électrique, ça dure 300 000 km, oui, d'accord, ouais, sur des Tesla, sur des bagnoles à 40 000 balles, à 50 000 balles, pas sur des voitures à 10 000 euros, à 15 000 euros. Et moi, je ne pense pas au panier haut, je pense au panier moyen ou au panier bas. Il y a un fait, et le fait, il est réel, c'est que les voitures de petit budget sont moins performantes et moins sûres que les véhicules thermiques. C'est une évidence. C'est pas moi qui le dis. Toutes les études le disent actuellement. Tout simplement, quand vous achetez une voiture de moyenne gamme ou de bas de gamme, malgré qu'elle soit neuve, déjà vous la payez plus cher qu'un véhicule classique et en plus vous avez beaucoup plus de.
Donc on est d'accord, Mehdi, pour enfoncer une porte. Oui, mais on est bien compris ce que tu dis. Il y a voiture électrique et voiture électrique, quoi.
Exactement. Vous avez le problème de la voiture électrique, c'est que si tu as du pognon, et c'est comme dans peu importe les voitures, que ce soit thermique ou électrique, mais le problème, c'est que le coût des réparations des véhicules électriques sont beaucoup plus importants que le coût des réparations sur des véhicules thermiques.
Kevin, reste avec nous, Mehdi. Kevin, vous l'entendez, ça?
J'entends. Maintenant, la question que j'ai peut-être envie de lui poser,
c'est... Allez-y. Il vous écoute. Allez-y, posez-lui directement, Kevin. Mehdi vous écoute.
Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la voiture électrique est encore un peu chère, elle n'est pas encore accessible à tout le monde, est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer la voiture électrique et refuser tout le...
Alors, la supprimer, non. Je ne suis pas du tout cet avis-là. Mais arrêter de faire du lobbying à outrance. Parce qu'on est suivi, on est pourchassé par des lobbies chinois et américains pour dire que le tout électrique est l'avenir et que tout va marcher. C'est d'une connerie, mais sans nom. Je vous le dis, c'est d'une connerie sans nom. On n'a pas les capacités de rechargement pour avoir un parc automobile électrique complet. Et même dans 10 ans, on ne l'aura toujours pas. Dans 15 ans, on ne l'aura toujours pas. Et dans 20 ans, on ne l'aura toujours pas.
Ça, encore une fois, vous pouvez l'entendre, Kevin, parce que ce que dit Mehdi, effectivement, c'est pas, il prône pas le non électrique. Mais là, on va tout droit, en tout cas, c'est le discours politique, et notamment en France. Hein. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron, il prône le tout électrique. Donc, quand on n'aura pas le choix, on fait comment, Kevin?
Alors, déjà, ils n'ont jamais prôné le tout électrique, ils ont prôné la fin du thermique.
C'est quoi la différence entre ne pas prôner le tout électrique et mettre le thermique?
La voiture qui roule à l'huile de colza, par exemple.
Ouais, enfin, moi, j'ai pas entendu le président de la République prôner l'huile de colza.
Déjà, c'est un point très factuel. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est qu'il y a énormément de lobbying anti-voiture électrique, et de la part souvent sur des arguments qui sont souvent fallacieux. Genre, ça n'a pas assez d'autonomie, dès qu'on met la clim, on fait moitié moins de kilomètres, alors que sur des choses qui ne se vérifient absolument pas dans la vérité, et quelles que soient les marques, il n'y a pas que Tesla qui fait la voiture électrique, il y a aussi des Hyundai, des Kia, qui dépassent les 500 000 km sans problème. voilà, c'est un petit peu un faux procès. Donc voilà, je suis juste.
Mais on a entendu votre avis et c'est bien que vous l'ayez exposé. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Kevin qui nous appelait depuis la Haute-Garonne. Mehdi, je reviens vers toi. Mehdi, moi, il y a une chose qui m'inquiète. C'est que je me souviens qu'il y a quelques mois, j'ai entendu le patron de Stellantis, je crois, qui parlait d'électrique. En tout cas, c'était un constructeur français. Et qui nous disait. Le journaliste lui demandait si un jour on pouvait espérer des voitures électriques. On a compris, il y a voitures électriques et voitures électriques. Donc de bonnes voitures électriques, on va dire, à des prix abordables. Et moi, je me souviens très bien que ce patron d'un grand groupe français, franchement, je ne fais pas d'omerta, mais je me souviens plus lequel c'était. Je ne sais pas si c'était Renault ou Stellantis, peu importe. Il lui a dit, je ne peux pas vous promettre qu'on arrivera un jour à fabriquer des voitures électriques pas chères. Moi, ça m'inquiète, ça, quand j'entends un patron, un constructeur dire ça.
Vu le prix de la batterie, c'est 30%
du budget.
40% de la batterie, c'est 40% du budget. Ouais. Donc, à un moment, il est vrai qu'il y a des usines qui sont en train d'être créées les unes après les autres en France pour justement satisfaire la demande qu'il y a dans ce domaine-là. Mais le problème, et moi je le dis, c'est que le véhicule électrique n'est pas disponible pour tout le monde et pour tous les budgets. Parce que quand vous êtes à moins de 100 000 km, ben tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous passez les 100, 120 000 km sur des petites voitures, petits budgets, les problèmes commencent et les factures sont beaucoup plus onéreuses que les véhicules thermiques. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon gars qui le dit, c'est un fait réel sur l'ensemble du parc automobile électrique. Donc, ok, il n'y a pas de problème, on y va, si vous voulez, au tout électrique. Moi, ça ne me dérange pas, de toute façon, parce qu'on a fait des formations pour mes mécaniciens pour le tout électrique. Ouais. Mais le souci, c'est que la facture est x1,5, voire x2, quand c'est de l'entretien de véhicules de ce type-là. Et après, les gens vont se plaindre et ils vont se prendre un retour de boomerang en disant « On nous avait promis d'économiser de l'argent par rapport à l'autonomie. » Eh ben finalement, l'électricité, vu le prix de l'électricité qui n'arrête pas de
monter. Ça, c'est une autre question, t'as raison, Mehdi. Ça, c'est une autre question.
Voilà.
Parce que aujourd'hui, charger sa voiture, ça revient pas très cher, mais rien ne dit que ça continuera.
Ça dans les 3 ou 4 prochaines années. Je pense pas que ce soit la même chose. Ouais. Mais maintenant, moi, je veux pas être réfractaire en disant non, c'est pas bien. Non, mais je suis en train de vous dire qu'on est en train de rentrer dans un mur à vitesse grand V parce qu'on n'a pas les capacités ni techniques ni matérielles de satisfaire tout le monde. Et je ne pense pas aux cadres sup, je ne pense pas aux gens qui ont les moyens de se payer des Tesla ou des Hyundai ou des Toyota qui ont des vraies capacités en termes de garantie, mais je parle toujours des petits budgets. Et ça me fait peur.
Merci Mehdi d'avoir été avec nous. Mehdi Ghezzar, président du groupe GZR. Salut au GZR Auto et Grande Gueule sur RMC. Maxime nous rejoint en 32-16. Bonjour Maxime.
Bonjour.
On est en Ille-et-Vilaine.
Tout à fait.
C'est ça. Pardon, j'ai pas entendu.
À Rennes.
Ah bah oui, on est directement à Rennes. Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Maxime ?
Je travaille en banque.
Très bien. Bon, vous faites confiance à la voiture électrique ?
Je fais confiance, oui ou non, parce que j'ai rencontré un problème avec c'était une Renault Zoé, où en fait en pleine conduite, en fonction de la température et du climat. Donc l'avantage c'est qu'en Bretagne, on n'a pas forcément le risque, en tout cas, de la chaleur, mais quand il y a eu certaines canicules, la voiture s'est mise en sécurité. Et qu'en sur la 4 voies, bah, du coup, la voiture s'est mise en sécurité et impossible juste de rabattre en forçant le véhicule pour la mettre sur la bande d'arrêt d'urgence.
Oh, ça doit faire peur, ça.
Donc, et après, la voiture ne réagit plus du tout, elle reste allumée et on a marqué.
J'imagine, vous êtes allé vers votre revendeur, il vous a dit quoi?
Bah en fait, le temps déjà de se faire dépanner, etc. En fait, au bout d'une demi-heure, la voiture se remet à se réactiver. Donc du coup, on repart, etc. Et après, quand j'ai fait analyser en fait le véhicule, c'était en fait un défaut de capteur sur le moteur. Et sauf que du coup, on n'a pas du tout la technologie ou les compétences aujourd'hui de réparer cette pièce-là. Et il faut un changement intégral du moteur.
Non.
Alors que le moteur avait que 40 000 km, quoi.
Mais vous avez fait comment alors? Vous avez la garantie au moins?
Non, la voiture était 2017 et du coup on l'a changé en 2023, le moteur, et du coup la garantie était passée, donc c'était après.
Ça veut dire que vous avez été reconvaincant.
Comment?
Vous avez rien pu faire?
Non, en fait, un changement de moteur et du coup c'était.
Mais combien ça vous a coûté?
Ça m'a coûté 4 000 euros.
Oh.
Donc, comme on dit, voilà, si tous les 40 000 km, on doit mettre 4 000 euros de réparation. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai pas eu d'autres frais, on va dire, annexes associés.
Mais bon, si
voilà.
Et elle vous avait coûté combien à l'achat de la voiture?
Elle avait coûté 20 000. Ouais, avec les bonus associés, vu qu'on avait redonné un véhicule.
Ouais, ça fait un sacré budget. Hein. Bah, voilà, j'imagine, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un coup de chaud, mais ça vous a refroidi un petit peu, non?
Ouais, c'était. On se pose des questions, en fait. Surtout, c'était ma femme qui conduisait, et c'est surtout, en fait, de.
Bah, la frayeur. Ouais.
Ne réagit plus.
Dangereux.
En fait, on ne peut plus accélérer. Ouais. On a tout juste du mal, en fait, à même tourner, parce que la direction assistée a même du mal à se. À débloquer. Donc, non, ça peut. Ouais, ça.
Bon, au moins, vous faites des économies sur le carburant.
C'est ça, c'est le côté positif.
Ouais, bah heureusement qu'il y en a un. Merci Maxime d'avoir été avec nous. Maxime qui nous appelait depuis Lille-et-Vilaine. On va voir s'il y a des messages, notamment sur Direct Studio, Paul.
On a beaucoup de retours d'expérience suite de Morgane qui dit « J'ai roulé pendant 4 ans en électrique ». En effet, lui voit un vrai avantage sur la facture au final quand on fait.
Ça, c'est... Non, mais ça, on le conteste
c'est
pas.
C'est 4 fois moins cher que le carburant. Oui, 400 euros de plein par mois avec une essence. Ce qui fait. C'est une Peugeot 2008, nous dit-il, franchement, très satisfait. Quand on en vient aux réparations, il dit beaucoup d'économies comme embrayage, entretien, les coûts au quotidien.
Forcément.
Ça devient beaucoup plus cher que la thermique. Beaucoup de gens ont de la famille à plus de 200 km, nous dit Romain. C'est donc très compliqué pour beaucoup de gens. C'est un peu ce que nous disait Mehdi. Quand on n'a pas forcément un gros portefeuille pour acheter une voiture électrique.
Dès qu'on dépasse un certain kilométrage. Voilà,
Le kilométrage est compliqué à remplir pour les gens qui ont peu de moyens.
Allez, résultat de notre consultation, pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration?
Oui. Pour 89% de nos auditeurs.
Les constructeurs qui nous écoutent savent qu'ils ont encore du boulot au niveau communication. Dans un instant, les Français en direct, notre Tour de France des législatives, on continue, c'est vous qui avez la parole. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, on sera du côté. Après avoir été dans l'Aisne, on ira en Loire-Atlantique. A tout de suite.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle, midi, 14h sur RMC, RMC Story, le deuxième tour des législatives. On est en pleine entre deux tours. Vous en êtes où? Vous en pensez quoi? Après le département de l'Ain, on va en Loire-Atlantique.
RMC, législative 2024, les Français en direct.
Et Martin Cadoré, reporter RMC, est avec nous. Bonjour Martin.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. On est donc en Loire-Atlantique. Bonjour.
Tout à fait, je suis avec Jean-François, il y a 40 ans, il est apiculteur bio. Je l'ai croisé ce matin sur le marché qui vient de se terminer. Il va voter pour le nouveau Front Populaire dans sa circonscription. C'est un écologiste, le député sortant, qui est d'ailleurs en tête de peu. Et justement, les enjeux écologiques pour lui sont complètement absents de la campagne et ça l'attriste beaucoup.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je peux vous demander pour quel parti exactement vous allez voter? Enfin, pour quel type de candidat? Pour quel candidat?
Le nom du candidat?
Non, sa couleur politique.
Sa couleur politique, il est écologiste.
D'accord, pour un écologiste.
Nouveau Front Populaire.
D'accord. Est-ce qu'il y a un sens pour vous, j'imagine, en tant qu'apiculteur bio?
Ouais, bien sûr, mais c'est l'ensemble du programme Nouveau Front Populaire qui me plaît aussi, et puis c'est voter pour un député qui est le député sortant et qui a bien travaillé depuis 3 ans et qui c'est aussi pour ça que je vote pour lui quoi.
Donc vous êtes convaincu? Est-ce que vous comprenez une bonne partie des Français qui nous parlent notamment sur RMC au 32-16 et qui eux sont totalement perdus?
Oui et non, moi c'est assez clair en fait. Moi le programme du Nouveau Front Populaire me convient tout à fait. Dans ce moment d'inquiétude, me donne plein d'espoir en fait. On en discutait avec Martin avant. Moi je change mes humeurs entre l'inquiétude et la peur de ce Rassemblement National qui arriverait au pouvoir, et en même temps plein d'espoir, parce que ce que propose le Nouveau Front Populaire, moi, me donne plein d'espoir.
Bon, le programme il est vaste. Si vous deviez nous citer quelque chose auquel vous croyez particulièrement, ça serait quoi comme type de mesure?
Par rapport au Nouveau Front Populaire?
Ouais.
Ouais, l'idée de réduire les inégalités, je crois que c'est ce qui vraiment fait beaucoup de mal aux Français et ce qui, je crois, je sais pas en tout cas, mais je crois, amène les gens à voter Rassemblement National. C'est le déclassement et le fait que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, en fait, et qu'on voit bien qu'il y a un problème là-dessus, quoi.
Martin, oui. Ce matin, tu me disais que tu as rencontré Jean-François sur le marché, c'est ça?
Exactement.
J'imagine que tu as eu l'occasion de discuter avec pas mal d'habitants du coin. C'est quoi l'ambiance générale?
L'ambiance générale, on va dire que c'est effectivement un sentiment de, un peu de déclassement. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que Jean-François me disait juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est que avant, avec son voisin, ils arrivaient à se parler. Bon, ils n'avaient pas les mêmes idées. Et maintenant, il y a une sorte de fossé qui se creuse. C'est un peu difficile de discuter. C'est ça que tu me disais, Jean-François.
Ouais, en tout cas, c'est on sent que ça se tend. Moi, c'est l'inquiétude majeure pour la suite. On ne sait pas si le Rassemblement national aura. On pense pas qu'ils auront la majorité, mais en tout cas, c'est
une sorte de fraction
dans le. Ouais, voilà, ouais. Et ouais. Ça fait peur et ça fait suer, pour ne pas dire autre chose, de plus pouvoir discuter. Maintenant, le fait d'être de gauche écolo, on est une extrême et à contrario. Donc c'est assez terrible, c'est surtout ça qui est vraiment embêtant quoi.
Merci Jean-François d'avoir été avec nous. Merci à Martin Cadoret, reporter RMC Les Français en direct. On était donc en Loire-Atlantique. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi, c'est le meilleur du jour, notre zapping. À tout de suite.
RMC Midi 14h. Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, tous les jours midi 14h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. J'allais dire que c'est le meilleur du jour sur RMC.
Et là, c'est le meilleur de l'Euro.
Le meilleur du foot.
Oui, c'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024. On vous envoie à Munich pour la demi-finale qui aura lieu mardi prochain, demi-finale de l'Euro. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire en envoyant Euro au 732-16. Euro au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec les GG, pour ou contre le clip de rap anti-RN. Un collectif intitulé Non pas Saran, ils ne passeront pas, d'une vingtaine de rappeurs, dont Akhenaton ou encore Sosomanes, ont enregistré un clip dans lequel les paroles sont sans détour. Fuck le Rassemblement ou encore Jordan t'es mort, un clip honteux pour Fessal, auditeur d'RMC qui témoignait ce matin chez les GG.
Moi je suis français d'origine marocaine et musulman. Je suis né en France, j'ai grandi dans les cités HLM, mais nos parents nous ont éduqués, ils nous ont appris à respecter ce beau pays, la France, qui les a accueillis. Aujourd'hui, je suis outré, on est outré, on n'en peut plus, nous, musulmans, maghrébins, d'entendre, de voir que ces gens-là, c'est eux qui nous représentent dans les médias. On n'en peut plus de ces rappeurs, de ces footballeurs, de ces chanteurs, de ces comédiens, de ces Aya Nakamura. Ces personnes-là, moi, ne me représentent pas. C'est une honte, ce clip, il est inadmissible. Bess Bardella, la mère de Bardella, comme vous avez dit, pute, etc. En quoi ça, c'est du respect? En quoi ça, c'est de la tolérance?
Élise, tu as vu ce clip?
J'ai vu le clip. Moi, je repense à Diams qui a sorti la chanson Marine il y a 20 ans de ça, qui était une chanson digne, qui n'était pas insultante, qui était polie, bien écrite. Aujourd'hui,
il y avait eu aussi La Jeunesse Emmerde le Front National.
Oui, ça va, mais là, en fait, la chanson, moi, elle me met très mal à l'aise. Notamment vis-à-vis de l'antisémitisme, en fait. Parce que cette chanson, elle reprend tous les codes.
Pour ceux qui l'ont pas vu, faut quand même décrire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une chanson qui reprend tous les codes de l'antisémitisme. Donc, c'est une chanson contre le Rassemblement National, ça, y a pas de souci.
Ouais.
Mais qui dit, en gros, qui parle des francs-maçons, comme si, qui parle des francs-maçons, qui parle de Chétanyahou, le sale blanc, qui parle, du génocide en cours, que la Palestine sera libre du Jourdain à la mer. De la Seine au Jourdain.
De la Seine au Jourdain.
Donc, clairement, il y a des
et contre la vaccination.
Il y a très clairement du complotisme, de l'antisémitisme.
Elle me met très mal à l'aise, cette chanson. Je me dis, mais vous rendez compte ce que c'est d'être juif en ce moment? C'est-à-dire que, à la fois, je suis censée lutter contre le Rassemblement National, et on me le demande, mais je ne suis pas en capacité de pouvoir me rallier aux gens de gauche, parce qu'en fait, ils font des sorties qui sont complètement contre moi.
Ah, non, tu peux pas dire des gens de gauche. Certains gens de gauche.
Une grande majorité de la gauche a partagé ce clip.
Merci, il y a encore des gens de gauche.
Rémi, là il y a vraiment des raisons, si vous voulez, judiciaires. Je comprends pas qu'il n'y ait pas des produits. Aujourd'hui, des procureurs qui ne soient pas tout de suite élevés contre ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment des appels au meurtre, quasiment. Donc c'est au-delà de la vulgarité, hein, il faut le dire. C'est appel au meurtre, c'est antisémitisme, c'est illuminati, c'est contre la vaccination. Tous les poncifs sont là. C'est plus que complotiste.
Et la haine des femmes aussi. Et je n'ai pas entendu les féministes de gauche ou les féministes s'élever quand deux femmes sont traitées de putes et de chiennes en rut. Pardonnez-moi, mais mesdames et messieurs, d'avoir cité ça, mais je pense que
et la
à
mère
moment,
de Bardella.
Il faut dire
également la mère de Bardella.
Et baiser la mère de Bardella. Enfin, je veux dire, la pauvre femme, elle a rien. Enfin, je veux dire, c'est C'est-à-dire que, désolé de devoir prononcer ces mots-là à la radio, mais il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il faut voir ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui.
La liberté d'expression a des limites.
Mais on a le droit de d'être contre le Rassemblement National. On a le droit de s'élever contre le Rassemblement National. On a le droit d'être créatif contre le Front National. Mais ça, vous savez ce que ça fait ? Alors déjà, c'est pénalement répréhensible. Mmh. Et en plus, une nouvelle fois, cela sert le Rassemblement National.
C'est voilà. Vraiment, ouais.
Parce que les gens vont aller voter contre ces gens-là.
En fait, c'est voilà. Répondre à la bêtise par la bêtise. Enfin, c'est vraiment.
Voilà, c'est tout.
Ça
donc
fait peur.
C'est...
Elle fait peur, la chanson.
Et moi, je trouve que dans l'espace médiatique, heureusement, chez nous, sur RMC, sur BFM TV, on parle de ça. Mais dans beaucoup de médias, notamment du service public, on soutient un peu, on est plutôt, on va dire, tolérant avec ce qui est dit. Si d'aventure un rappeur ou des rappeurs de droite, parce qu'il y en a, avait fait une chanson sur la gauche, sur Marine Tondelier, voilà par exemple, ou sur Jean-Luc Mélenchon, etc. Je vous raconte pas le scandale que ça aurait fait. Donc moi, je trouve ça absolument lamentable et dangereux pour la société.
Les GG, notre économie ne peut pas fonctionner sans immigration, d'accord ou pas d'accord? Décrié par de nombreux Français, notamment par certains au RN, l'immigration a pourtant toujours fait partie de notre société. Certains secteurs d'activité ne peuvent pas s'en passer. Quand on témoignait ce matin sur RMC, Maxime, il est maraîcher, il a 35 ans et il travaille en Indre-et-Loire, pardon.
En tant qu'agriculteur, moi je suis inquiet. Nous avons besoin de salariés français, oui, mais aussi immigrés, parce que ils veulent venir travailler sur nos fermes, ils veulent venir travailler en France. Et moi je serais ravi de les accueillir. Puis en plus de ça, je suis maraîcher bio, du maraîchage biologique en petite culture très diversifiée. Les Français demandent du maraîchage bio, ils demandent à ce que l'agriculture respecte l'environnement, ils demandent à pouvoir manger des légumes de qualité qui ne mettent pas en danger leur santé.
On entend cet extrait, Robert, de ce maraîcher là, bio qui travaille en Indre-et-Loire. C'est vrai que le discours... sur l'immigration, il s'est légèrement tendu ces derniers jours, mais c'est pas nouveau. Il y a eu la loi immigration qui est passée du gouvernement. Il y a aussi une politique, en tout cas un programme migratoire du côté des LR qui est assez sévère. Et puis là, il y a le RN. Est-ce que c'est du populisme, tout ça ?
Non, mais toute l'histoire de notre pays, si vous voulez, notre histoire économique de notre pays montre qu'effectivement, on a eu besoin d'immigration. Les Polonais,
et on en a besoin encore aujourd'hui.
Les Italiens. Moi, je vais vous donner dans le domaine de la santé. Si aujourd'hui, nous n'avions pas de médecins étrangers, si vous voulez, on fermerait la moitié des services d'urgence de notre pays. La moitié des services d'urgence. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors après, il faut des règles, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui... pas le choix, mais c'est toute l'histoire de notre pays qui est faite effectivement d'immigration. Ça veut dire une immigration contrôlée.
Choisie.
Choisie, oui. Choisie, mais c'est une réalité. Et je crois que la vie économique de notre pays ne pourrait pas se faire sans immigration.
Bah, il suffit de regarder ce plateau. Voilà. On dit que je pense beaucoup d'enfants et de petits-enfants d'immigrés autour de cette table. Mmh. Donc,
Moi pas, mais.
Moi non plus.
Si.
Moi oui.
Moi oui. Voilà. Donc. C'est comme ça et je pense que l'immigration aujourd'hui arrange en réalité énormément de secteurs ça offre beaucoup d'emplois
Tu as raison, enfin toutes les organisations patronales, je parle des organisations patronales, le disent elles-mêmes.
Il suffit de voir que Meloni en Italie
sans la main-d'œuvre immigrée.
En Italie, Meloni s'est vite retrouvée confrontée dans ses idées anti-immigration.
Elle avait dit qu'elle fermerait les frontières et le patronat italien lui a dit on a besoin de 850 000
excuse l'immigration pour moins payer.
Non mais
voilà. Moi je suis on a souvent eu le débat. Moi je suis pour la régularisation des sans papiers qui travaillent.
Ouais.
Voilà. Le problème, c'est pas l'immigration de travail, c'est l'immigration illégale et l'immigration au groupement familial où les gens ne travaillent pas. Moi, je suis tout à fait pour, et je suis pour le fait que les immigrés qui viennent travailler soient totalement légaux pour ne pas faire baisser le prix de la main d'œuvre au détriment de l'ouvrier français. C'est-à-dire qu'il faut un contrat de travail avec les règles françaises. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui se passe. Pourquoi le Parti communiste dans les années 80 était contre l'immigration ? Parce qu'il estimait que c'était bon pour le patronat, parce que ça faisait baisser mécaniquement baisser le coût du travail et le salaire des ouvriers français. Donc moi je suis pour une immigration choisie et je suis contre une immigration illégale. enfin comme le quand tu vas aller au Canada par exemple, au Canada, ben si t'as besoin de gens dans tel secteur, ben tu peux te présenter pour immigrer, pour bosser dans ce secteur-là. Et l'immense majorité des Français n'est pas contre l'immigration choisie, elle est contre l'immigration illégale où des pauvres gens se retrouvent à la sur la colline du Krak à Stalingrad à Paris.
Mais Fred, le problème c'est que on parle de ce besoin de manœuvre immigrée. Mais encore faut-il l'accueillir, cette manœuvre immigrée, et oui. L'accueillir dans des conditions
dignes.
Quand tu entends certains, et notamment au RN, certains qui disent les logements sociaux doivent être réservés en priorité aux Français, à la main-d'œuvre, aux Français, pardon, à la préférence nationale, comment tu fais pour bien les accueillir, ces gens-là, si ils n'ont plus de possibilité de se loger dans le logement
social? Il faut que ce soit réservé aux gens qui travaillent. Aux gens qui travaillent dans les secteurs les plus importants. Moi, je trouve c'est normal qu'une infirmière, une aide-soignante, puisqu'on est dans le secteur de Robert, soit prioritaire pour un logement social, parce qu'elle est encore plus importante que moi à la nation. C'est-à-dire, moi, je me considère moins important pour mon pays qu'une infirmière. Ça, je le pense vraiment. Hein. Moi, je suis là, je donne mon avis, c'est sympa, etc. Mais je pense que l'infirmière, elle a beaucoup plus raison de demander un logement social que moi. Quoi.
Les GG, les JO de Paris seront-ils vraiment écolo? Faire des jeux plus responsables, c'était l'un des engagements premiers lors de la candidature de Paris pour organiser ces Jeux Olympiques. Le village olympique, d'ailleurs, a été construit sans clim, mais devant le tollé des comités nationaux, le CIO a fait marche arrière en autorisant finalement l'installation de 2500 climatiseurs mobiles. Une décision qui ne choque pas l'éducateur Étienne Lébille.
Je pense que quand on regarde partout, c'est le pragmatisme. C'est pour ça que parfois, il faut pas être dans l'inquiétude totale.
Ça va coûter plus cher d'ailleurs.
Le pragmatisme, les politiques à un moment sont obligés de se confronter au pragmatisme.
Alors justement.
On dit il va y avoir des hélicoptères individuels, il va y avoir tout ça. Bon, c'est des projets, c'est très bien, ça fait rêver. Puis après, on se retrouve devant la réalité et la réalité, elle est toujours à une certaine distance. Et le politique, il est obligé de se confronter à cette réalité.
Quelle incompétence.
Je ne sais pas si c'est de l'incompétence parce que finalement, quand on fait le calcul, ça a toujours existé, ça a toujours existé, le fait de prévoir des choses et que ça se fasse pas, que ça se comme
un matériel. Plus cher.
Bon, écolo ou pas écolo, les JO, là, mais je comprends plus trop. Pas de clim, finalement, on fait marche arrière. C'est du pragmatisme ou du renoncement?
C'est normal, enfin, je veux dire.
Alors qu'on l'a pas prévu au départ.
On aurait dû prévoir avant. Bah. Et sûrement, parce que là, ça sera plein de petites clims individuelles qui sont évidemment.
Ah non, c'est des gros climatiseurs mobiles. Hein,
c'est le truc que t'amènes toi. Ouais. Donc, en fait, ça va polluer encore plus. Et ça va coûter plus d'électricité que si c'était un système avec une vraie régulation. Non, après, il faut dire une chose quand même. Il faut reconnaître que la plupart des infrastructures existaient déjà.
Les sponsors des JO sont les entreprises les plus polluantes au monde. Voilà. Donc à partir de là.
Un Hidalgo refusé total.
Ouais,
c'est Coca-Cola, c'est le plus grand polluant mondial dans l'agroalimentaire. Ouais. Ils peuvent monter et descendre.
Ouais, les Américains, on a le droit, tu vois. Quand c'est français, on n'en veut pas.
Ah, oui. Ils peuvent monter et descendre, les JO, et je suis porteuse de la flamme, j'adore cet événement. Mais ce n'est pas écolo. Et bon, c'est quelque chose à assumer, c'est pas un événement écolo.
Tu l'as déjà porté la flamme là?
Non, c'est le 15.
T'enverras les photos?
Bah tu viens.
D'accord.
Mais oui, on va aller sur le bord.
Apolline Matan, question primordiale. Et je ne vise personne. Comment devenir plus intelligent? Si vous souhaitez développer votre
besoin,
si vous souhaitez développer votre QI, et ce à n'importe quel âge, Robert, il vous faut privilégier certaines activités. Et la première d'entre elles est de jouer d'un instrument de musique, comme nous l'expliquait ce matin sur RMC Martin Bourdin.
C'est mon cas. C'est l'activité qui booste le plus votre QI, d'après une étude. Dans le top 3 de ces activités, il y a aussi le tricot, qui arrive deuxième, et faire de l'exercice, troisième. Exactement. Donc si vous voulez devenir plus intelligent, vous savez ce qu'il faut faire. En revanche, faire de la couture ou jouer à un nouveau jeu de société, ne vous fatiguez pas trop, ça ne change quasiment rien sur votre QI.
Tricot, mais pas couture.
Tricot, mais pas couture.
Fred, est-ce que tu joues d'un instrument de musique?
Je suis tout à fait nul. D'accord. Mais je joue de ma voix.
Attends. Donc
je joue ma voix.
Donc tu ne joues pas d'instrument de musique. Est-ce que tu sais faire du tricot?
Non.
Tu fais pas trop d'exercice physique?
Je marche beaucoup.
OK.
Et tu sais ce que je fais pendant que je marche?
Non, je vais te dire.
Et tu sais ce que je fais quand je marche?
Tu écoutes RMC.
J'écoute RMC régulièrement.
Ah, ça c'est bien.
Oui, mais aussi j'écris mes livres en marchant.
Ouais.
C'est pratique.
Je pense que
c'est vrai, mes livres, c'est écrit en marchant.
Ouais, mais je pense que t'as encore de la main.
Moi, je joue à l'instrument.
Au niveau intellectuel? Ah oui. Puis tu sais plus ce que ça a été.
Robert, tu joues quoi comme instrument?
La guitare.
Bien.
joue de la guitare. J'ai la guitare qui me démange. Alors je gratte un petit peu.
Je joue de la guitare. Non, mais ce qui est
Tu vois, tu nous l'amènes un jour la guitare.
Oui, avec plaisir. Ouais. Ce qui est très important, c'est comment on fait travailler son cerveau. Ça joue sur le cognitif, ça joue sur l'intelligence, ça joue sur tout. Le cerveau, c'est comme les muscles du corps. Ça s'entretient et c'est pour ça que l'activité physique est importante.
Élise, tu joues d'un instrument ?
Je joue du piano.
Formidable.
Et je suis brillante.
Et je suis sûr que tu sais faire du tricot. Merci
presque
d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui, Estelle Midi. Bah oui, on arrête dès 14h parce que priorité au Tour de France, évidemment. Et on retrouve Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Rémi.
Intégral Tour. Christophe, cinquième étape aujourd'hui.
Et oui, cinquième étape.
Il va y avoir encore de très, très, très belles images et à la radio, évidemment, de grosses émotions parce que on passe de la Savoie au département de l'Ain, c'est ça, hein?
Exactement. Alors, c'est pas l'étape la plus sexy du Tour de France. Faut pas se cacher la vérité.
Beau paysage.
Ah, on peut pas avoir tous les jours la bagarre et tous les jours des cols comme le Galibier. Non, aujourd'hui, c'est une étape de transition. On va donc passer effectivement de la montagne jusqu'aux plaines de l'Ain. Et a priori, ça devrait être réservé tout à l'heure aux sprinteurs. Les grosses cuisses du peloton qui vont s'en donner à cœur joie dans le final de l'étape avec un nouveau maillot jaune, Tadej Pogacar qui a donc pris les commandes de ce Tour de France hier à l'issue d'un magnifique numéro. On va évidemment y revenir et on va vous parler de tous ces sprinteurs qui devraient s'imposer tout à l'heure. Pour l'instant, c'est parti piano. On sent que les organismes sont déjà fatigués. Il n'y a eu que 4 jours, mais
c'était
déjà
dur
ils sont
hier. C'était dur hier. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Et puis on te retrouve dans un instant, Intégral Tour. Et nous, on se retrouve demain à partir de midi, Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À demain.